RVA, l'invité de la rédaction.
Notre invité ce mois-ci au micro de RVA, Dominique Charmeil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc directrice générale de l'association Seclair à Clermont-Ferrand et depuis le 14 mars dernier, vous avez ouvert un centre de premier accueil pour les réfugiés qui ont donc quitté l'Ukraine à cause de la guerre. Avant de nous expliquer et de rentrer dans le vif du sujet et de ce qu'il en est aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on rappelle le rôle initial de votre association. Est-ce qu'on peut le qualifier d'aide au logement, entre guillemets, pour des personnes en difficulté ou grande précarité ?
Alors moi, je dirais, c'est même plus large que le logement, c'est un accompagnement social pour toute difficulté, toute vulnérabilité, avec une spécificité quand même sur de l'accueil en urgence et sur la gestion de ce type de mission, à savoir l'accueil de personnes qui sont déplacées à cause de la guerre.
Et donc, depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine a éclaté. De nombreuses actions ont été mises en œuvre pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Comment s'est déroulée l'opération de prise en charge de votre côté ? Les débuts devaient être très denses, j'imagine.
Tout à fait. Donc, en fait, on a été sollicité par les services de l'État, la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité et la Préfecture, pour pouvoir accueillir en urgence et équiper, en fait, un immeuble pour accueillir 140 personnes. Donc les délais ont été très courts, puisqu'on avait 2 jours pour pouvoir assorer entièrement le bâtiment.
Et combien d'afflux de personnes vous aviez en moyenne là, les premiers jours, les premières semaines ? C'était aussi surtout des familles, j'imagine ?
Les tout premiers temps, en fait, il y avait des étudiants étrangers, parce que Kiev était une ville qui accueillait beaucoup d'étudiants. Je crois même que c'est... L'Ukraine est le deuxième pays d'accueil en termes d'étudiants. Et puis, effectivement, pas mal de familles qui ont eu peur tout de suite de ce qui allait se passer. On a vu arriver dans les semaines suivantes des gens qui, eux, se sont retrouvés enfermés dans leur pays. Donc, autour du 24 février, c'est vraiment effectivement les familles qui ont eu peur de ce qui allait arriver.
Et en termes d'affluence, est-ce qu'on pouvait déjà le dénombrer ? Vous ne pouvez pas loger tout le monde, j'imagine, sur ce centre provisoire de logement ?
Non, on n'a jamais eu de difficulté à loger tout le monde. On a pu accueillir tout le monde parce qu'effectivement, c'est un centre de transit. Donc du coup, on accueille en urgence les familles, on gère la partie administrative et on réoriente dans des logements plus pérennes. Donc finalement, le centre joue son rôle de centre de transit.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette situation d'urgence et là de guerre qu'on retrouve en Europe? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Je crois que c'est finalement des personnes dans un pays qui est tout à côté de chez nous. Et effectivement, on ressent tout de suite les stigmates de la guerre par rapport à des personnes qui avaient une vie comme vous et moi, qui avaient une activité professionnelle. On a des banquiers, des caissières, on a... des enfants qui allaient à l'école complètement normalement et qui, du jour au lendemain, basculent complètement dans l'horreur de la guerre. Je vais donner juste un exemple. On a un couple qui nous a montré sa maison. Ils habitaient Mariupol, la maison avant et la maison après. La maison, elle est complètement... C'est un champ de ruines aujourd'hui.
Et pour revenir donc sur votre rôle, comme vous le disiez, hein, c'est surtout transitoire. Est-ce que vous pourriez nous rappeler vraiment le déroulé spécifique déjà ? La transition, comment elle se fait? Puis il y a aussi un suivi, vous dites administratif, mais aussi psychologique finalement.
Psychologique, médical. Donc nous, notre rôle, c'est d'accueillir en urgence, de pouvoir finalement répondre aux besoins les plus primaires. Hein. Besoin de vêtements, besoin de médicaments, besoin de lunettes, si on a perdu ses lunettes dans la fuite. Et puis on va gérer la partie administrative avec la préfecture pour finalement... régulariser administrativement la situation pour ensuite faire toutes les démarches qu'il faut. Et il y a effectivement un aspect très médical. Et là, on a 2 services qui interviennent directement sur le site. On a le dispensaire Émile Roux, qui est un service du conseil départemental, qui va prendre en charge toute la partie d'évaluation médicale, la partie somatique. Et puis, on a la cellule d'unité médico-psychologique du CHU de Clermont-Ferrand, qui, elles, ils sont vraiment les spécialistes, en fait, de la prise en charge du trauma. Et donc, ils interviennent toutes les semaines, en fait, sur le centre.
Et ensuite, donc, les logements, vers quel logement, hébergement, vous orientez toutes ces familles, ces personnes? On a aussi peut-être des familles d'accueil, du coup, qui se rendent disponibles?
Alors, en fait, il y a une cellule spécifique dédiée, en fait, à la prise en charge de l'après. Et donc, en fait, il y a des logements qui peuvent être mis à disposition par les communes. Et puis, il y a d'autres logements, effectivement, qui sont mis à disposition par les habitants. On va privilégier dans ce cas, par contre, les hébergements autonomes. Il y a eu beaucoup de mouvements citoyens qui ont mis à disposition des chambres. Et ça, on sait à quel point ça n'a qu'un temps, parce que ce n'est pas simple de cohabiter sur le long terme quand on met à disposition une chambre, qu'il faut partager la cuisine. C'est plutôt simple au début, mais si ça dure longtemps, c'est pesant pour tout le monde. Donc c'est pour ça que quand on réoriente sur des logements des mouvements citoyens, c'est forcément des logements indépendants.
Est-ce que vous avez pu avoir aussi des nouvelles de ces personnes? Est-ce qu'elles arrivent à reprendre petit à petit une vie normale dans la région? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Vous avez un suivi aussi là-dessus?
Oui. Alors pour les plus fragiles, l'association intervient sur l'après. Pour les autres situations, c'est le conseil départemental qui assure l'accompagnement. Donc finalement, les familles, elles ne sont pas laissées comme ça, hein. Elles ont vraiment un lien qui est gardé. Et puis effectivement, on a des retours. On a un monsieur, par exemple, qui a plus de 60 ans, qui a été pris en charge sur une résidence senior à Lande. Il était très isolé en Ukraine et aujourd'hui, il s'investit énormément dans les activités que la structure propose. Et il est très entouré par les personnes de la commune de Lande. Donc voilà, c'est des exemples qu'on peut avoir sur la suite.
Et vous avez des exemples aussi, j'imagine, de familles entières, peut-être aussi, des échos, des anecdotes. Quels sont leurs états d'esprit aujourd'hui, reconstruire toute une famille aussi dans un pays totalement étranger?
Alors, c'est compliqué, mais on a affaire à des gens qui ne se projettent pas dans l'attente. On a affaire à des gens qui, tout de suite, veulent s'investir professionnellement. D'abord, ils avaient une activité professionnelle, donc ils veulent pouvoir retrouver très vite ce niveau. Ils sont beaucoup à considérer que quand est-ce qu'on va pouvoir revenir? C'est-à-dire que on n'a pas, dans la majorité, affaire à des gens qui se disent on va rester toute notre vie ici. Ils sont très, très attachés à leur pays d'origine et ils ont envie de pouvoir y revenir très vite, avec quand même le point d'interrogation, c'est dans quel état finalement je vais retrouver ma ville, ma maison. Voilà. Et on a effectivement des exemples un peu compliqués. On a par exemple un couple mixte. Elle est ukrainienne, lui est arménien. Ils ont un petit garçon de 8 ans. Et le papa lui-même a vécu l'exil de la guerre au moment du conflit en Arménie. Il est venu en Ukraine et il est extrêmement traumatisé de se dire que finalement il fait revivre les mêmes conditions. Enfin, il fait revivre. En tout cas, cet exil fait revivre les mêmes conditions à son fils. Après, on a d'autres situations où on a une maman qui a retrouvé sa fille qui était sur Clermont-Ferrand, qui était étudiante sur Clermont-Ferrand et elle a retrouvé finalement, ça faisait des années qu'elles avaient pas pu se voir. Donc voilà, on a des situations aussi de retrouvailles.
Effectivement, des cas de figure totalement différents selon les situations. Et aujourd'hui, donc, ce centre provisoire est toujours d'actualité. Il me semble que la capacité d'accueil a pu être augmentée pour les logements. Est-ce qu'on peut rappeler les chiffres, peut-être?
Alors le centre de premier accueil, il a aujourd'hui une capacité de 140 places. Au départ, c'était 90 places, et puis finalement, on a pu monter en charge compte tenu des besoins
Et
qui
vous
étaient à pourvoir.
recevez encore beaucoup aujourd'hui
Oui,
de gens?
le centre joue son rôle de transit. Depuis le démarrage de la mission, on a accueilli 250 plus de 250 personnes, c'est-à-dire qu'on a accueilli, accompagné, et puis réorienté sur les logements extérieurs. Et on a à peu près 200 personnes qui sont passées, parce que le centre a aussi cette vocation-là, qui sont passées en transit pour d'autres pays. Les Ukrainiens, effectivement, ont des liens avec l'Espagne, le Portugal, l'Irlande. Et du coup, effectivement, on a accueilli des bus qui sont retournés dans ces pays.
Et nous, à notre échelle, comment on peut encore venir en aide, que ce soit à votre association ou d'une autre manière, hein, pour toutes ces personnes qui sont en pleine transition de vie?
Alors, d'abord, si effectivement les gens ont envie de s'investir en termes de temps, il est toujours possible de devenir bénévole sur le centre Ukraine ou sur les activités de Seclair. Pour cela, il suffit de contacter l'adresse mail contact@seclair.fr. Et puis autrement, je dirais, il y a toujours des appels aux dons d'associations. Je pense, alors pour le coup, sur les appels aux dons, moi, je dis plutôt de donner aux organismes qui sont sur place et qui peuvent aider, notamment le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Donc il est toujours possible finalement de donner un coup de main sur cette situation.
Et j'aimerais revenir quand même sur août 2021, comme on le disait. Votre association était aussi engagée dans l'accueil d'urgence pour les Afghans suite au retour au pouvoir des talibans dans le pays. On a aussi eu la crise sanitaire avec une forte précarisation des Français. Est-ce qu'on peut dire que c'est un contexte de gestion de crise presque inédit aussi pour votre association en ce moment ?
Sur les conflits, l'accueil des personnes en conflit de guerre, non. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. En 99, on gérait déjà les conséquences de la guerre au Kosovo. On a pu intervenir sur les mouvements en Syrie, ce qui a généré la guerre en Irak. Donc, sur cette gestion d'accueil en urgence de populations étrangères, c'est pas une nouveauté. La nouveauté, effectivement, c'est par contre le cumul, je dirais, dans une situation effectivement de crise sanitaire qui n'était pas forcément simple à gérer. Mais on a une capacité assez claire de pouvoir s'adapter. Et sur la crise sanitaire, là aussi, on avait monté un centre de gestion du Covid pour les personnes sans domicile fixe, ce qui fait qu'on a accueilli plus de 400 personnes, ce qui fait que là, ça nous a mis au plus près en fait, de la maladie dès le départ. C'est-à-dire qu'on a ouvert ce centre au 31 mars et ça nous a donné quand même la connaissance de la maladie. Et ça nous a beaucoup servi, finalement, sur la gestion qui s'en est suivie pendant plus de 2 ans.
Et je vous laisse le mot de la fin pour clôturer l'interview. Un message que vous voudriez faire passer pour finir l'interview.
Le message que j'ai envie de faire passer, c'est que j'ai entendu à un moment donné une polémique de dire, finalement, on accueille beaucoup plus pour ces personnes ukrainiennes que pour les autres. Moi, je dirais que l'important, ce n'est pas forcément de savoir si on accueille plus ou pas. C'est, à mon avis, une vraie chance, justement, de pouvoir découvrir si des habitants, si des communes ouvrent leurs portes aujourd'hui alors qu'elles ne le faisaient pas. Bah, tant mieux, parce que ça va permettre de pouvoir lever des représentations qu'il peut y avoir sur l'accueil des personnes étrangères en situation de guerre. Voilà.
Écoutez, merci encore Dominique Charmé pour cette interview. Je rappelle, vous êtes donc directrice générale de l'association Seclair à Clermont-Ferrand. Plus d'informations sur le site de l'association seclair.fr.
Oui, voilà.
Merci beaucoup.